Il est 16h sur Campus FM 100.6.
Le premier soir, je me suis donc endormi sur le sable, à 1000 miles de toute terre habitée. J'étais bien plus isolé qu'un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan. Alors, vous imaginez ma surprise, au lever du jour, quand une drôle de petite voix m'a réveillé.
S'il vous plaît, dessine-moi un mouton.
Une émission de bande dessinée présentée par Patrick Pinchard. Michel Campus à la régie pour ce tome 3 de l'hommage à Hergé, consacré cette fois à la narration chez Hergé et au contenu des albums de Tintin. Pour en parler en direct dans ce studio, nous attendons avec impatience François Rivière, auteur d'un essai intitulé « L'école d'Hergé », paru aux éditions Jacques Glénat, et Benoît Peters, déjà présent lui, auteur du livre cassette Hergé, paru aux éditions Décembre. Plus des extraits d'interviews d'Hergé, de Jacques Skepmans, de Henri Van Leer, de Luc Honoré et de Michel Serres. Benoît, en attendant l'arrivée de François, nous allons commencer par le premier album de Tintin, Tintin au pays des soviets, qui a été épuisé pendant, je crois, 40 ans. Il a connu depuis les années 70 un tas de rééditions, une réédition de luxe chez Casterman, une multitude d'éditions pirates, toutes hors de prix. Et à la fin de l'année passée, un fac-similé chez Casterman, qui est déjà épuisé 6 mois après, malgré un important tirage de départ. Alors, est-ce que c'est seulement sa rareté qui peut expliquer le succès impressionnant, ou est-il déjà réellement quelque chose dans son contenu qui explique ce succès?
Je crois que Tintin au pays des soviets, c'est quand même le mythe absolu dans l'histoire de la bande dessinée. C'est vraiment l'album fondateur dans la bande dessinée européenne. Et bon, je crois que c'est avant tout sa rareté associée au caractère fondateur qu'il a dans l'œuvre d'Hergé qui explique ce succès. Enfin, cette envie de posséder un mythe qui a permis à Casterman d'en vendre près de 100 000 exemplaires en faisant cette réédition. Sinon, bon, l'album lui-même, je crois, à part l'invention du personnage de Tintin qui est déjà là et qui est fondamental, et puis peut-être une certaine verve burlesque, un rythme, je crois que c'est quand même un album qui objectivement est assez faible, enfin... graphiquement, surtout hein, les premières pages.
Surtout les premières pages.
C'est catastrophique.
Mm-hmm. On sait, bon, Hergé nous le rappellera tantôt, que cet album est la copie conforme d'un livre destructeur, haineux à l'égard du régime des soviets, qui s'appelait Moscou sans voile. C'est un album, Tintin au pays des soviets, qui n'aura jamais d'équivalent par la suite. Hein. Est-ce qu'on peut dire que c'était un album militant de la part d'Hergé?
Oui, c'est une bande dessinée de propagande. Mm-hmm. Il est certain que c'est une bande dessinée de propagande. Avec les faiblesses du genre. C'est le côté démonstratif, le fait que le récit est entièrement au service d'une idée, de quelques idées, qui sont les idées de la droite européenne de l'époque, simplement. Je crois que Hergé va mettre un moment avant de mettre au point sa formule narrative. Mmh. On peut considérer que les trois premiers albums, même les quatre premiers, de toute façon, les cigares du pharaon ne sont pas encore très très affranchis de ce modèle-là, sont un petit peu des voyages touristiques. Alors, bon, le premier est un voyage touristique complètement militant, le deuxième est un voyage touristique colonialiste avec les mythes du colonialisme de l'époque. Bon, l'Amérique, c'est déjà un peu plus frais parce que c'est un mythe qui excite un petit peu plus Hergé. D'ailleurs, il avait envie d'envoyer Tintin en Amérique alors qu'il n'avait pas très envie de l'envoyer au Congo. Mais... dans ces trois albums, ou dans ces quatre albums, il n'y a pas vraiment de récit. Il y a finalement un itinéraire du personnage dans un pays, il y a des anecdotes qui se succèdent, et qui toutes illustrent une certaine idée très conventionnelle du pays traversé. C'est après que les véritables récits Hergé vont commencer.
Mmh. Hergé est en fait le symbole de tous les clichés de son époque.
Absolument, absolument. Et il y a une chose qui est drôle, c'est que finalement, c'est les Dupont qui, dans la suite, vont incarner le caractère un petit peu naïf d'Hergé à cette période. Enfin, les Dupont avec leur déguisement typique, c'est un peu Hergé visitant les Soviets, visitant l'Amérique, et croyant que les choses ressemblent vraiment à l'idée préconçue qu'on peut en avoir. En effet, les Dupont voyagent toujours pour, en quelque sorte, pour confirmer ce qui est bien connu. Hein, mm-hmm. Quand ils montent sur le bateau dans le trésor de Racam le Rouge, ils disent « Tous les vieux loups de mer mâchent la chic, c'est connu. » Et ce qui importe, c'est que ce soit connu. Eh bien, dans les premiers Tintins, c'est un peu comme ça que ça fonctionne.
Mm-hmm. Bon, nous allons entendre un premier document, Hergé expliquant ses premières influences, les influences qu'ont menées aux premiers albums. Et puis Jacques Skepmans, qui est un journaliste du Pourquoi Pas, qui va parler de l'importance de l'album Le Lotus Bleu.
Cette revue du oui. Boy Scout belge, oui. dans laquelle donc vous dessinez Totor, oui. CP, des hannetons.
Oui.
Vous étiez scout.
Oui, j'étais scout. Oui, oui.
Longtemps même.
J'étais très longtemps scout. J'ai commencé, j'ai commencé en 18, je crois. Et j'ai dû terminer vers 25, c'est quand même pas mal, pendant 7 ans. Je crois que j'étais scout. Et puis j'ai gardé des sympathies pour le mouvement, pour des amis qui étaient restés scouts eux-mêmes.
Et Tintin, c'est un grand scout, non?
Oui, c'est un peu ça, évidemment. Il y a une filiation. Le Totor, c'était un vrai scout. Tintin, lui aussi, il est un peu de cet esprit-là. C'est l'esprit un peu d'aventure, de jeu, je dirais. Hein? Et avec les qualités qu'on prête aux scouts, en tout
des
cas.
Des brouillards,
fidèles à la parole donnée, respectueux de la nature aussi, déjà. Bon, envers les animaux, enfin, etc. Optimiste, solide, costaud, enfin, voilà.
Et puis, quand vous étiez scout, vous faisiez des jeux de piste, des... Oui. Comment ça s'appelait? Des signes de piste, non?
Des jeux de piste, notamment, avec des signes de piste, notamment. Oui, des jeux, oui, certainement.
Donc, on parlait d'Indiens, déjà, et puis c'est de là qu'est née cette fascination.
Oui, c'est vrai. C'est vrai, il y a eu toute une période dans le scoutisme, à l'époque, qu'on a qualifiée, la période indianiste, d'ailleurs, et où on était fasciné par les Indiens des plaines, les Sioux, les Cheyennes, etc., ces gens-là. Et il a paru à cette époque-là, d'ailleurs, un très beau bouquin qui s'appelait « Mœurs et histoires des peaux rouges » d'un Français qui s'appelle Paul Coase, qui a fini d'ailleurs par aller s'établir au Canada dans une tribu, dans une réserve de peaux rouges. Il a encore écrit d'autres bouquins. Et j'ai toujours eu pour eux, pour ces Indiens des plaines, une grande admiration, c'est vrai.
Encore maintenant ?
Encore maintenant.
Vous y êtes allé ? Parce que vous êtes allé à Wounded Knee ?
Je suis allé à Wounded Knee, je suis allé dans la réserve de Pine Ridge, donc, qui est dans le South Dakota, où j'ai rencontré des gens, comme par exemple l'arrière-petite-fils de Red Cloud, Nuage Rouge, célèbre pour ses batailles avec Sitting Bull, etc. Enfin, je ne vais pas faire un cours d'histoire indianiste, je m'y perdrai d'ailleurs.
Vous êtes toujours fasciné par les Indiens.
Oui, je suis fasciné. Je trouve qu'on leur a fait grand tort, un énorme tort. Les Blancs ont été absolument ignobles à leur égard. C'était un véritable génocide. Et oui, leur façon de vivre, une sorte de noblesse, leur religion, leur philosophie, je ne dis pas que ça me fascine, mais enfin, j'admire. Je suis d'ailleurs toujours en rapport avec des peaux rouges là-bas.
Par lettre ?
Par lettre, bien sûr.
l'album le plus important, à la fois graphiquement et logiquement, pour moi, c'est le Lotus Bleu. Graphiquement, c'est la première fois, on l'a assez écrit à l'occasion de la visite de Wang, de Chang. Oui, je suis obsédé par l'RTB. Lors de la visite de Chang en Belgique, la première fois où il a découvert le réalisme total dans ses dessins, une recherche, parce que là, il se sentait peut-être concerné parce qu'il avait connu des étudiants chinois républicains à Louvain et dans les milieux catholiques. Donc, il se sentait concerné. Donc, c'était son premier combat. Donc, c'est le plus important, graphiquement, au point de vue réalisme, et également au point de vue engagement. C'est la première fois que Hergé condamne une nation en bloc et qui condamne l'impérialisme de l'Axe.
Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours anciens et tu pleures. Tu suffoques, tu blêmis la présence qu'a sonné l'heure. Des adieux à jamais, et je suis au regret de te dire que je m'en vais. Mais je t'aimais, oui. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tes sanglots longs ne pourront rien changer. Comme d'ici bien vers l'aile, au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours heureux et tu pleures. Sanglote, tu gémis, apeurant que ce n'est l'heure. Des adieux à jamais, je suis au regret te dire que je m'en vais. Car tu m'en as trop fait. Je suis venu te dire que je m'en vais. Et tes larmes n'y pourront rien changer. Comme d'ici bien Verlaine, au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours anciens où tu pleures. Tu suffoques, tu blêmis à présent que ce n'est heureux. Des adieux à jamais, je suis heureux. Te dire que je m'en vais. Oui, je t'aimais, oui, mais je suis venu te dire que je m'en vais. Tes sanglots longs ne pourront rien changer. Comme d'ici bien Verlaine, au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours heureux et tu pleures. Tu sanglotes, tu gémis à présent. Personne n'est heureux. Des adieux à jamais. Oui, je suis au regret de te dire que je m'en vais.
Avant Serge Gainsbourg, nous avons entendu une interview d'Hergé au micro de Michel Cédric et une interview de Jacques Skepmans, journaliste au Pourquoi Pas. Jacques Skepmans qui nous parlait de l'importance de Chang dans la série. Alors Chang, 45 ans après sa rencontre avec Hergé, a fait la une des journaux l'année passée pour son retour et sa nouvelle rencontre avec Hergé. Retour qui a provoqué beaucoup d'émotions et qui a peut-être aussi exagéré dans la presse son importance relative dans l'œuvre d'Hergé. Est-ce qu'on a exagéré ou il fut réellement aussi important que ça?
Je crois que Chang joue très précisément le rôle d'un catalyseur. C'est-à-dire que le terrain est préparé chez Hergé pour qu'il y ait chez lui une espèce de révolution, toute proportion gardée. Et la personne qui va déclencher cette révolution, cette prise de conscience soudaine, va être Chang. Ceci dit, j'aurais tendance à penser que si ça n'avait pas été Chang, ça aurait été... Et sans diminuer du tout l'importance de Chang, mais ça aurait été quelqu'un d'autre dans d'autres circonstances, un an plus tard, deux ans plus tard. C'est-à-dire qu'il y avait, je crois, chez Hergé, une espèce de disponibilité à la transformation, qu'on sentait déjà une volonté d'aller au-delà de ce qu'il était en train de faire, et qui tout d'un coup s'est marqué sur cet épisode de la Chine par une volonté d'authenticité. Mais je crois qu'un créateur n'éprouve jamais que les révolutions qu'il a lui-même préparées, sinon ça tombe à plat. Enfin, je veux dire, on aurait pu lui dire ça, et puis il l'aurait fait une fois, il aurait tenu compte d'un certain nombre d'enseignements réalistes, et puis deux albums après, ce serait redevenu informe. Enfin, or, c'est pas du tout ponctuel. Le Lotus Bleu est l'amorce d'une série, l'inauguration de quelque chose, mais c'est quelque chose qui va complètement se prolonger et même se transformer. Car l'erreur, ce serait de croire que le Lotus Bleu va fixer définitivement le modèle du récit hergéen. Le Lotus Bleu lance quelque chose, un souci accru du graphisme, une rigueur plus importante dans la narration, un souci du pays que Tintin va traverser, enfin, et donc on va décrire avec beaucoup plus de soin, mais tout cela va se trouver encore fortement transformé par la suite, et Hergé ne va pas rester du tout fixé sur un modèle, je dirais, documentaire ou vraiment politique réaliste qu'incarne un petit peu le Lotus Bleu. Il va évoluer de plus en plus vers l'imaginaire, enfin, en laissant à l'imaginaire une place de plus en plus grande. Donc l'influence de Chang, oui, elle est décisive, mais en même temps elle est décisive parce qu'elle se faisait par le biais d'Hergé et qu'Hergé était prêt à la recevoir.
Je crois que l'importance de ce Lotus Bleu, c'est que Hergé commence à partir de cet album à prendre une certaine distance, d'abord par rapport au récit, parce que le récit forme un tout et non plus une succession de deux planches par semaine, et deuxièmement par rapport aux clichés de son époque, où Hergé ne représente plus simplement les clichés, il s'en moque.
Oui, absolument, il va y avoir chez Hergé constitution d'une distance. C'est cette distance qui, en fait, va faire peut-être toujours son exceptionnel talent de narrateur et qui va le distinguer de pratiquement tous les autres conteurs de bande dessinée du siècle, c'est que c'est quelqu'un qui, sans avoir fait uniquement du comique ou du burlesque, va toujours raconter les histoires avec une petite frange de décalage, enfin, comme s'il racontait l'histoire à la fois en y croyant et en étant complètement détaché, avec un humour qui ne le quitte jamais, même quand il raconte les choses les plus graves, les plus importantes. Ce qui le distingue complètement de Jacobs, par exemple. Jacobs raconte des histoires en y croyant et en voulant complètement y faire croire son lecteur. Hergé raconte des choses qui sont tout aussi importantes, mais avec une espèce d'humour latent qui fait que même quand on agite les choses les plus importantes, on peut faire des plaisanteries aux personnages, on peut introduire une diversion, placer des petites anecdotes, etc. Et ça, c'est le côté, je crois, qu'il faut insister, parce que c'est peut-être le côté le plus fondamental. C'est cette espèce de liberté qu'il va avoir tout le temps, il faudra qu'on y revienne, de liberté dans le découpage, de liberté dans l'agencement des scènes, de liberté dans l'intervention des personnages, tout cela autour d'un fil conducteur, d'un fil narratif qui va être de mieux en mieux tenu, mais dont il ne sera jamais esclave, mais au contraire, il pourra comme gambader sans cesse autour de son axe principal. Et ça, je ne connais personne dans l'histoire de la bande dessinée, ni dans les anciens, ni dans les modernes, personne qui se soit permis la moitié de ça.
Vient ensuite L'oreille cassée, une histoire qui est menée à un rythme complètement fou, que tu as qualifié de première véritable construction circulaire. Qu'est-ce que tu entends par là?
Bon, c'est-à-dire que jusqu'à L'oreille cassée, on a un lent progrès vers la cohérence du récit. On essaye de lier les séquences les unes aux autres et de faire revenir certains personnages ou certains éléments de l'anecdote. Mais globalement, on a encore un récit qui obéit à une structure feuilletonesque. C'est-à-dire que ce sont des épisodes qui se succèdent suivant un axe purement linéaire. Bon, les choses se passent, et puis il s'en passe d'autres, et puis il s'en passe d'autres. Et c'est à partir de L'oreille cassée qu'on va avoir quelque chose qui rapproche plus d'une construction romanesque, enfin, ou d'une construction même poétique dans un certain sens, qui va être de véritablement penser le bouclage de tous les éléments, c'est-à-dire la cohérence, le rapport du début et de la fin, le fait qu'on parte d'un point et qu'on revienne qu'on arrive à la fin à un autre point qui ne soit pas sans rapport avec celui dont on était parti. Et ça, bon, L'oreille cassée le montre de manière très exemplaire, avec cette recherche de l'objet perdu à la première page du récit, la statuette, la statuette à l'oreille cassée qui disparaît dans le musée, et on se lance à la poursuite de cette statuette jusqu'à ce qu'on la retrouve à la fin, et alors avec une espèce de jeu de mots superbe, puisque si au début la statuette a simplement l'oreille cassée, à la fin elle sera totalement cassée, absolument cassée, et elle reviendra dans le musée, mais cassée au second degré, donc rafistolée, scotchée, etc. Bon, et tout l'humour d'Hergé aussi qui revient dessus, et toute cette trajectoire se fait donc non plus disons, pour visiter un pays, pour rencontrer des personnages un petit peu au petit bonheur de la chance, mais, disons, dans la poursuite de quelque chose d'unitaire qui est à la fois le centre et le prétexte du récit. C'est ce qu'Alfred Hitchcock, qui s'intéressait beaucoup à des phénomènes de ce genre, appelait le MacGuffin, l'objet que tout le monde cherche, et qui n'a en soi pas tellement d'importance, c'est une erreur de croire qu'il a beaucoup d'importance, qui n'a d'autre importance que de motiver sans cesse les personnages et de donner au récit une formidable cohésion.
Mm-hmm. On retrouvera d'ailleurs cette structure par la suite dans beaucoup d'autres albums.
Absolument, absolument. Ça c'est très très fondamental. Hergé découvre cette chose-là probablement intuitivement, il découvre la force que peut avoir un objet ou un thème central autre qu'un pays. Il découvre ça au moment de l'oreille cassée, mais probablement sans encore prendre conscience de toutes les possibilités de ce thème. Et petit à petit, il va jouer de plus en plus de cela, et on verra beaucoup de ses récits se construire autour de la recherche d'un objet d'abord manquant, puis finalement retrouvé, et suscitant sans cesse le désir du personnage. Et c'est très important de susciter le désir des personnages, parce que susciter le désir des personnages, c'est aussi éveiller celui du lecteur.
Mmh. On y reviendra à l'occasion de ces albums. Jusqu'à la guerre, Hergé va continuer à dessiner un album tous les ans. L'île noire en 1938, le sceptre de Dokar en 1939, puis le pays de l'or noir, le crabe aux pinces d'or, l'étoile mystérieuse. On reviendra aussi sur ces albums tantôt. Mais je crois que à l'occasion de la guerre apparaît un événement tout à fait important, c'est que avant la guerre, Hergé pouvait être complètement libre dans le nombre de planches de ses albums. Par contre, au moment de la guerre, à cause de la pénurie de papier, il est obligé de se limiter à 62 planches. Est-ce que ça a eu des conséquences pour la narration d'Hergé ?
Certainement, mais il y a une petite chose sur laquelle je voudrais revenir avant, c'est, donc tu dis qu'Hergé a fait un album par an avant la guerre, en fait il faut bien se rendre compte qu'il a fait beaucoup plus. Il a eu une productivité incroyable, dont on ne se rend plus très bien compte maintenant, mais il a fait tout cet intin au rythme d'un par an et de deux planches par semaine. Mm-hmm. Il a fait les Quick et Flup pendant la même période, et pratiquement deux planches chaque semaine aussi pendant plusieurs années. Il a fait la plupart des Joézettes. Il a fait Popol et Virginie au pays des Lapinos. Il a animé l'atelier Hergé et fait des créations publicitaires en nombre incroyable, des illustrations dans le petit 20e, des couvertures de livres. Enfin, c'est une activité absolument saisissante dont on ne se rend plus compte maintenant parce que depuis une dizaine ou une douzaine d'années, on est habitué à un rythme de travail très, très tranquille chez Hergé. On est habitué à ce que le studio Hergé et Hergé lui-même prennent vraiment leur temps pour mener à bien un travail. Mais il faut penser que cet homme, en dehors de l'extraordinaire qualité de son travail, a été une force de la nature. C'est une veste d'Alexandre Dumas ou de Jules Verne qui pouvait produire vraiment trois volumes de qualité par an, plus un tas de travaux à côté. Et quand on regarde les planches noires et blanches des albums, c'est une chose à ne pas oublier. Cette espèce de... à la fois de force, d'esthétisation et de qualité extrême, mais en même temps, ce côté bulldozer, cette manière d'aller de l'avant comme ça et de mettre au point des techniques qui permettaient une forme de simplification, c'est-à-dire bon, ces extraordinaires décors vides et en même temps complètement riches et suffisants des Quick et Flup, par exemple, qui sont mis au point aussi, cette technique étant mise au point aussi parce qu'il faut aller vite. Bon, ça c'était une petite parenthèse avant d'arriver à la période de la guerre et du type de transformation qu'elle va amener. Il y a deux transformations en fait au moment de la guerre. La première, c'est à la fin du crabe aux pinces d'or, dire en 1941, le fait que le supplément Le Soir Jeunesse, qui avait remplacé pour Hergé le petit 20e défunt, le supplément Le Soir Jeunesse disparaît. Et Hergé continue à faire paraître Le Crabe aux Pinces d'Or, puis fera paraître L'Étoile Mystérieuse et les autres albums, par strip quotidien. Donc, simplement, chaque jour, une bande de 3, 4, 5 dessins, au lieu de chaque semaine, de planches entières. Et ça, ça va être une grande transformation narrative, c'est-à-dire arriver à concentrer l'intérêt, plus seulement sur deux planches, mais chaque jour. Chaque jour, retenir l'intérêt. Dans chaque ligne, dans chaque groupe de dessins, arriver à trouver un point qui accroche, qui relance. Bon, c'est la tradition, finalement, des grands feuilletonistes du 19e siècle. Je parlais de Dumas tout à l'heure, et là, on est très précisément dans la technique Dumas, hein, c'est-à-dire une petite portion quotidienne, mais qui doit toujours accrocher. Bon, là, donc, c'est une espèce de retour au feuilleton d'origine mm-hmm. pour Hergé, mais un retour qui se fait avec tout l'acquis de l'entre-deux. C'est-à-dire, ce n'est plus le feuilleton contre le récit, c'est le récit plus le feuilleton. Ouais, il faut bien comprendre ça, qu'au départ, bon, au moment du Congo, c'est vraiment le pur feuilleton, c'est le feuilleton sans récit. Alors qu'ici, il a compris le récit, il a assimilé de plus en plus le récit, mais il essaye d'apporter de plus en plus le feuilletonesque. Et je me demande si on ne pourrait pas envisager certaines interventions des personnages secondaires et l'extension du rôle des personnages secondaires par rapport à ça, par rapport à cette nécessité d'avoir un événement quotidien. C'est que l'événement quotidien ne pourra pas toujours être une action, donc on va l'amener par les personnages aussi. Bon, ça c'est un point. Alors, c'est un grand changement, donc Boringer en 41, mais juste après, en 42, il y a un autre grand changement, qui est donc, comme tu disais, le passage aux 62 pages. C'est-à-dire le fait que Hergé, qui jusque-là faisait des albums de 110, 130, 120 planches, suivant les cas, comme ça venait, etc., suivant l'inspiration du jour, se voit imposer par Casterman, en raison de la pénurie de papier, le passage aux 62 planches. Donc, c'est en 42... L'étoile mystérieuse, qui est le premier album à bénéficier ou à souffrir, comme on veut, de ce traitement. Bon, et puis, donc, comme on le sait, Hergé va reprendre tous les autres albums, les faire passer aux 62 pages. Aventure extraordinaire, si on y pense, que de reprendre toutes ces histoires, de voir les petits détails enlevés, comment il faut transformer, recadrer. Enfin, il y aurait un travail fabuleux à faire là-dessus, hein, sur toute cette optique de la transformation. Et on verrait d'ailleurs qu'il y a. Qu'il y a mille choses à y reprendre, enfin, parce que c'est fait chaque fois avec une science parfaite. Quand il élimine un dessin, c'est toujours le bon qu'il élimine, et quand il en agrandit un, c'est toujours bien choisi. Mais ce qui est important, c'est évidemment que ces deux mouvements, c'est-à-dire celui du passage au strip quotidien et celui du passage aux 62 planches, vont aller dans le même sens pour Hergé, c'est-à-dire celui d'une accentuation de la rigueur. Que plus rien ne soit là au hasard. On conserve la fantaisie, mais on élimine le hasard, et on essaye de faire servir davantage encore chaque détail, chaque morceau a l'impression d'ensemble de l'œuvre. Et Hergé a, à mon avis, un jugement très judicieux là-dessus. Il se rend très bien compte et il dit lui-même que le passage aux 62 planches l'a beaucoup aidé, lui a beaucoup apporté. Alors on va pouvoir se dire, bon, avec un œil un peu naïf, mais comment une restriction peut-elle apporter quelque chose? Comment le fait d'éliminer une possibilité, c'est la possibilité de la variété, va-t-elle pouvoir apporter quelque chose? Eh bien, je crois que, justement, les grands créateurs voient très bien ce que la contrainte, ce que l'exigence peut apporter, comme obligation de concentration supplémentaire, comme manière de vouloir tout conformer à un cadre qui est conventionnel et qu'on sait conventionnel, mais dont on va tirer parti, soit pour ajouter des épisodes si on a l'impression d'en manquer, soit au contraire pour ramener à l'essentiel si on a l'impression d'avoir trop de matière. Et je crois que ça, c'est très 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 fondamental. Enfin, il y a beaucoup de gens qui ont tendance à penser que la création, c'est la liberté pure, comme ça, qu'on y va, etc. Alors, il y a d'autres gens, bon, qui pourraient avoir l'idée naïve que si Hergé raconte en 62 pages, c'est parce que toutes ces histoires tombent naturellement dans le rythme des 62 pages, et que, comme par miracle, une aventure de Tintin ne peut qu'avoir 62 pages. Tintin, au bout de 62 pages, s'écroule d'épuisement. Évidemment, il ne s'agit ni de l'une de ces choses, ni de l'autre. Il s'agit d'une contrainte, véritablement, d'une difficulté supplémentaire. Mais la difficulté supplémentaire, dans le cas d'un créateur très fort, apporte un tonus, éloigne des solutions de facilité, amène à chercher encore plus loin, et bon, on va amener Hergé, par exemple, à penser les doubles albums, donc des albums qui sont encore beaucoup plus riches que les albums d'avant-guerre, parce que là, c'est vraiment deux fois 62 pages, très très dense, et ça va faire passer Hergé vraiment, alors là, dans la dimension romanesque.
Mais c'est pas un hasard si justement ces doubles d'albums apparaissent au moment de la guerre, au moment du passage au centre de planche.
Absolument, absolument.
Dans l'extrait qui suit, nous allons entendre Henri Van Leer, professeur à l'UCL, auteur d'un article dans le Musée imaginaire de Tintin, parler des albums qui suivent l'Amérique.